Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous irons à Dakar où vient de se tenir l'édition 2025 d'ELEC Expo, un salon qui a connu une forte participation marocaine. Vous aurez les détails dans quelques instants, ce sera dans les échos de la semaine. Et puis, nous verrons comment se porte le transport aérien en Afrique après la parenthèse du Covid. C'est le sujet que nous abordons avec notre invité. Il s'agit de l'expert aérien Mansour Diop. Vous l'entendrez dans quelques minutes. Et puis, nous parlerons de transformation agricole en Afrique. Quel rôle pour la diaspora africaine? Vous aurez les réponses et ce sera dans le Zoom Express. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, l'édition 2025 du salon ELEC Expo Africa s'est tenue cette semaine à Dakar. Il y était question de renforcer la coopération sud-sud dans le secteur de l'électricité. Une délégation marocaine conduite par le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur Omar Hejira a pris part à cet événement. En tout, une quarantaine d'entreprises marocaines y était représenté. Plus de détails dans cette correspondance de Régis Moukila depuis Dakar.
Organisée sous l'égide de la Confédération africaine de l'électricité, cette rencontre continentale réunit plus de 80 entreprises marocaines et africaines. Ces dernières sont venues exposer leur savoir-faire à plus de 2000 visiteurs professionnels attendus.
Nous avons choisi cette année de l'organiser à Dakar avec la FESELEC, la Fédération sénégalaise d'électricité, qui assure aussi la vice-présidente de la CAFELEC, parce qu'il y a un potentiel énorme, il y a une demande énorme, il y a une croissance énorme qui est en train de se dessiner dans cette région du monde. Et nous avons tout à gagner à travailler ensemble. Je conclurai par un mot de Sa Majesté, que Dieu le glorifie. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique.
La participation du Royaume du Maroc à cette édition 2025 du Salon ELEC Expo Afrique s'inscrit pleinement dans l'orientation diplomatique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, ce qui œuvre à renforcer les relations sud-sud et à consolider l'ancrage économique du Maroc en Afrique.
On veut essentiellement, premièrement, valoriser les entreprises marocaines, sénégalaises et africaines. On veut consolider la position du Maroc en tant que partenaire fiable, engagé sur l'innovation, l'intégration régionale et le partenariat gagnant-gagnant.
Dans un contexte où l'énergie devient un levier de développement, d'innovation et d'intégration continentale, le Maroc entend jouer un rôle moteur en partageant son savoir-faire et en consolidant les synergies sud-sud.
Merci à vous Régis Moukila qui nous parlait depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Et nous restons en Afrique de l'Ouest pour aller en Côte d'Ivoire cette fois. Et pour vous signaler que le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi sur l'accord de création de la Banque africaine de l'énergie. Cet accord prévoit un capital initial de 5 milliards de dollars qui seront dédiés au financement de projets et infrastructures énergétiques en Afrique. Pour rappel, la création de la Banque africaine de l'énergie a été initiée en 2022 par l'Organisation des producteurs de pétrole africain, en partenariat avec la Banque africaine d'import-export Afrexim-Bank. Et puis notez que le président américain Donald Trump a convié 5 chefs d'État africains en mini-sommet à Washington. Cette rencontre annoncée par la Maison-Blanche aura lieu à partir de mercredi prochain. Les présidents mauritaniens et sénégalais font partie de la shortlist des invités de Donald Trump. Il est à noter que ce mini-sommet intervient quelques jours après le 17e sommet d'affaires entre les États-Unis et l'Afrique à Luanda, en Angola. Plus de 2,5 milliards de dollars d'accords y avaient été annoncés.
Coémergence, l'invité.
Et nous avons le plaisir de retrouver Mansour Diop. Il est expert aérien. Avec lui, nous parlons du secteur aérien, donc en Afrique, les transports aériens. Surtout de voir si ce secteur a-t-il vraiment récupéré du Covid. Bonjour à vous, Mansour Diop, et merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Merci beaucoup, Omar. C'est avec plaisir que je participe à votre émission.
Alors, tout d'abord, comment se porte actuellement le secteur du transport aérien en Afrique?
Alors, je dirais pas trop bien, parce qu'il y a eu cette parenthèse Covid, il est vrai, qui a absolument laissé des séquelles, puisque pendant 2-3 ans, c'était un peu la léthargie. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les compagnies essayent de mieux aller et il n'y a qu'à prendre quelques exemples, comme par exemple Air Sénégal, qui a dû récemment essayer de reprendre du poil de la bête en éliminant toutes les lignes qui étaient déficitaires pour essayer de se concentrer sur un réseau un peu plus porteur. C'est un peu le cas aussi pour toutes les compagnies de la région ouest africaine. Il n'y en a pas beaucoup, puisque à part Air Sénégal, vous avez Air Côte d'Ivoire, qui fait de son mieux actuellement. Là, en Afrique centrale, c'est le désert, il faut le dire, malheureusement. Et en Afrique de l'Est, oui, Kenya Airways s'en sort relativement bien. Mmh. Et Ethiopian Airlines, le champion national connu, évidemment, se porte à merveille. Nous parlerons certainement un peu plus tard de ce qui se passera dans l'avenir immédiat. Mmh. Mais du côté du Maghreb également, que ce soit Royal Air Maroc ou Air Algérie et un peu plus loin Égyptair, ce sont des compagnies qui se maintiennent.
Mmh. Alors, la question qui se pose toujours, c'est est-ce que ce secteur s'est-il vraiment remis du choc du Covid-19?
Alors, remis, je dirais, au plan des chiffres, au plan du trafic, oui, les compagnies ont retrouvé globalement le niveau de ce que le trafic était avant le Covid, c'est-à-dire l'année de référence 2019. Mmh. Ça a été fait pour les dernières compagnies en 2023. Mais le problème que nous avons en Afrique, d'une manière globale, c'est que les taxes sont très élevées, le carburant, c'est le plus cher du monde. Et vous prenez un billet d'avion, les 40%, c'est pratiquement des taxes gouvernementales et autres. Donc, il y a quand même des difficultés structurelles qui étaient déjà là avant le Covid. Mmh. Et cette parenthèse Covid est venue exacerber les choses. Mmh. Et les compagnies ont les plus grandes difficultés à s'en sortir, même si le trafic a augmenté, même si le taux de remplissage s'améliore. Je parle dans le cas où il y a un réseau qui est le réseau adéquat, pas mm-hmm. des lignes de prestige envoyées un peu partout. Mm-hmm. En tout cas, en termes, même quand la compagnie est gérée correctement, structurellement, il y a des difficultés qui étaient déjà là avant le Covid. Mmh. Le Covid est venu
aggraver la situation.
Exactement. Voilà.
Donc le Covid a aggravé la situation. Alors, cela dit, quelles sont les perspectives qui se dégagent malgré tout?
Alors, il y a quand même des perspectives parce que si vous prenez la Côte d'Ivoire, la Air Côte d'Ivoire va recevoir ses deux Airbus A300 Neo pour aller desservir du long courrier comme Paris, par exemple. Et côté Air Sénégal, il y a eu ces vols qui ont été supprimés vers différentes destinations comme New York, Barcelone, Milan, etc. Pour se reconcentrer sur l'essentiel, ce qui peut faire penser qu'il y aura une meilleure qualité de service pour la clientèle, pour des vols long courrier, comme également pour les vols qui sont à l'intérieur de l'Afrique. Nous avons également de l'autre côté Askai, par exemple, qui également s'apprête, les dates ne sont pas encore connues, mais à faire du long courrier, également sortir du continent avec des gros porteurs. Pour ne donner que ces trois exemples, cela veut dire que pour 2025, en principe, on devrait avoir une certaine amélioration. Mais il faut dire que parallèlement, il y a beaucoup de négociations, notamment au niveau de l'AFRA, African Airlines Association, chaque fois qu'il y a des réunions, pour essayer d'amener les gouvernements à faire baisser ces taxes pour rendre l'accès à l'avion beaucoup plus facile, beaucoup plus...
Ils ont démocratisé, comme on le dit, démocratisé le transport aérien.
Mais c'est le mot, parce qu'en fait, alors, évidemment, ça c'est le côté gouvernemental, mais ce qu'il faut dire également, et ça c'est prouvé dans le transport aérien, avoir une bonne connectivité, c'est-à-dire avoir le maximum de liaisons entre les différentes villes, mettre le maximum de vols pour ne pas, par exemple, pour aller de Ouagadougou à Ndiamena, devoir remonter en France avant de redescendre, etc., des choses comme ça.
Et en tout cas, ce qui
est prouvé.
Allez-y, rapidement.
Alors, il est prouvé que s'il y a un bon maillage du réseau, le trafic va suivre, évidemment, accompagné par une tarification accessible pour laquelle nous avons parlé de ce que les gouvernements peuvent faire.
En tout cas, moins de taxes et plus de maillage donc des destinations africaines.
Absolument.
Certainement, nous aurons le plaisir de revenir sur ce sujet. Mansour Diop, je rappelle que vous êtes expert aérien. Vous nous parliez depuis la capitale sénégalaise, Dakar.
Merci beaucoup, Omar. Et
merci.
À
très bientôt.
Zoom Express.
Et nous parlons du rôle de la diaspora africaine dans la transformation des ressources agricoles du continent. Aujourd'hui, nous nous intéressons au cacao. C'est avec Ibrahim Diabaté qui est basé au Canada. Bonjour à vous, Ibrahim Diabaté. Tout d'abord, présentez-nous votre entreprise et vos activités dans cette filière de transformation du cacao.
Bonjour Omar, je suis Ibrahim Diabaté, président et directeur général de l'entreprise Transformation Cacao Ivoire Québec Inc. Et merci encore une fois pour cette interview. Présenter notre entreprise. Notre entreprise est située à Montréal, précisément au Québec, c'est au Canada. Et nous sommes spécialisés dans l'importation de fèves de cacao de qualité, notamment de la Côte d'Ivoire, du globalement des fèves de qualité de Madagascar, du Cameroun et aussi de l'Amérique latine et de l'Asie. Notre entreprise existe depuis 2021. Il faut dire que nous, en fait, au début, nous avons entamé par le négoce dans des fèves de cacao de matières premières. Et ensuite, nous sommes spécialisés en transformation de fèves de cacao en différents dérivés. Il faut parler de la masse de cacao, du beurre de cacao, de la poudre de cacao. Ensuite, nous avons poussé nos productions vers des transformations plus fines, donc des tablettes de chocolat, des chocolats de couverture, des tartinades avec du sucre d'érable. On fait aussi, bien sûr, du beurre de cacao qu'on vend aux industriels dans le domaine cosmétique et alimentaire pour le chocolat. Et aussi, on a des recettes de chocolat chaud qu'on fait à base des poudres de cacao produites ici à Montréal.
Alors, c'est une belle entrée en matière et avec moi également Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique qui relie la diaspora africaine avec les investisseurs. Alors Moustapha El Bouri, parlez-nous de l'intérêt de cette filière dans les économies du continent.
Omar, bonjour. En effet, la transformation du cacao sur l'Afrique subsaharienne reste très faible. Il faut le reconnaître aujourd'hui. On doit être aux alentours de 10% de produits transformés, ce qui est très très bas. L'une des principales raisons, c'est qu'on est, je pense, on n'est pas encore arrivé à atteindre un coût de transformation qui soit raisonnable. Je vais vous donner un exemple. Vous avez les Indiens qui achètent une grosse partie des produits du cacao brut en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays également, en Cameroun, au Ghana. Et il transporte le produit brut jusqu'en Inde, il transforme localement là-bas, ils arrivent à un produit transformé dont le coût est inférieur au coût qu'on a localement, soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, par exemple. Donc, vous voyez, en fait, on a énormément, je pense, de progrès à faire à ce niveau-là. Je pense que ça doit être un manque d'expérience, un problème de gestion des usines. Donc, il faut vraiment évoluer là-dessus. Et c'est pour ça que Ibrahim, ce qu'il a fait, c'est bien commencer par transformer les produits donc au Canada, avoir une expérience à ce niveau-là, bien maîtriser donc toute la chaîne, et en étape 2, voir comment implanter donc une unité de transformation en Côte d'Ivoire qui soit vraiment très opérationnelle.
Alors, je me tourne à nouveau vers Ibrahim Diabaté. Alors, comment évoluent ces activités de transformation? Surtout, quel est le potentiel de développement et de transformation des produits agricoles, à l'instar donc du cacao?
Alors, force est de reconnaître que y a quand même une nouvelle génération de populations africaines qui ont une poussée, qui ont une envie d'avoir une santé plus, d'avoir un bien-être, d'avoir une bonne santé. Donc, ces personnes-là se retrouvent vers des produits naturels comme le cacao, qui est un très bon antioxydant. Donc, ce qui fait que c'est un secteur dans lequel les Africains devraient s'investir. Et puis pour pouvoir servir cette clientèle-là, cette nouvelle clientèle, cette génération-là, qui est plus soucieuse des questions de santé, des questions de développement durable, de produits biologiques, etc. Donc, c'est un secteur, effectivement, le cacao, qui est en croissance d'année en année avec de nouveaux acteurs, de nouveaux consommateurs en Asie. Donc, ce qui fait que on gagnerait plus à investir dans la transformation des produits en Côte d'Ivoire ou dans les pays, j'allais dire producteurs, et même mieux dans d'autres pays hein, comme le Maroc, le Sénégal, où les consommateurs aussi apprécient énormément le chocolat hein, pour ses effets bénéfiques, etc.
Alors Ibrahim, qu'en est-il des partenaires et du financement dans ce domaine d'activité?
Oui, nos partenaires, il faut dire que je suis un Ivoiro-Canadien, donc installé au Canada. Donc mon premier partenaire, c'est le ministère de l'Agriculture de l'Agriculture du Québec, le MAPAC, je dirais. Et je fais affaire avec des artisans chocolatiers ici au Québec, au Canada, aux États-Unis aussi. Je suis conseiller pour tout ce qui est importation de fèves de cacao ici en Amérique du Nord. Donc, je fais affaire avec des maîtres chocolatiers, je fais affaire avec des artisans, je fais affaire avec aussi des écoles qui veulent mieux apprendre du cacao et aussi des partenaires aussi en Afrique parce que, comme je disais tantôt, nous importons de la Côte d'Ivoire et de certains pays en Asie. Donc, ce qui fait qu'on a des partenaires en Côte d'Ivoire, on a des partenaires aux États-Unis, on a des partenaires à Madagascar, donc des partenaires aussi en Haïti. Donc, transformation cacao étant donc cette stratégie un peu partout dans le monde. Et vise aussi à l'amélioration des rémunérations des planteurs africains qui vivent sous le seuil de la pauvreté, malheureusement. Et puis nous conscientisons cette population paysanne, en tout cas, à pouvoir créer des activités, pour pouvoir bénéficier de leur dur labeur.
Merci à vous, Ibrahim Diabaté. Je rappelle que vous êtes actif dans la transformation du cacao. Et merci à vous également, Moustapha Elbouri, directeur général de la plateforme Best Afrique.
Destination Éco,
Notre destination éco nous mène au Botswana, en Afrique australe. Occasion d'en savoir davantage sur cette économie qui repose essentiellement sur l'exploitation de ses ressources minières. Et c'est avec Idriss Lindier, directeur des rédactions de Media Mania, qui édite notamment l'agence panafricaine Ecofin, spécialisée dans l'actualité économique et financière africaine.
Les leviers économiques principaux du Botswana sont évidemment le diamant. L'industrie du diamant est le moteur de l'économie du Botswana et le diamant contribue à hauteur de 70% des recettes d'exportation et 30% du produit intérieur brut. La société Debswana, un partenariat entre le gouvernement et Debeurs, qui en réalité est une filiale du géant anglo-américain, est le principal acteur du secteur. Mais le Botswana n'est pas que resté sur les diamants. Rappelez-vous, le film « Les dieux leur sont tombés sur la tête ». Le Botswana a aussi développé le tourisme. Il a un robuste secteur avec une attention particulière pour le tourisme de haut de gamme et respectueux de l'environnement. Le delta, par exemple, de l'Okavango et le parc national de Chobe attirent des visiteurs internationaux et cela génère des revenus significatifs et des emplois. D'ailleurs, de nombreuses sociétés touristiques du Botswana sont cotées en bourse. Enfin, le Botswana comporte des services financiers et technologiques. Le pays a su tirer profit de sa richesse diamantifère pour se diversifier vers les services financiers et les technologies numériques. Gaborone, la capitale du pays, est devenue un centre régional pour les services financiers et les investissements.
Alors, Idriss Lindier, qu'en est-il des opportunités d'investissement dans cette économie d'Afrique australe qu'est le Botswana?
Après la crise de Covid-19 qui a affecté la demande mondiale de diamants et par conséquent l'économie du Botswana, le pays a connu une reprise économique notable en 2022. Le produit intérieur brut, c'est-à-dire la somme des richesses créées par un pays du Botswana, a enregistré une croissance de plus de 6%, principalement soutenue par les exportations de diamants, et une relance dans le secteur des services. L'inflation, qui est le rythme d'augmentation des prix dans un pays, est restée assez faible. C'est-à-dire que les prix n'augmentent pas au Botswana de manière assez vigoureuse. Bon, récemment, elle a augmenté sous l'effet des hausses mondiales, des prix de l'énergie. Mais toutefois, l'inflation s'est stabilisée autour de 7%. C'est une performance bien plus solide que la moyenne africaine, en fait, d'Afrique subsaharienne. Et puis, le Botswana a également intensifié les investissements dans les infrastructures, notamment en matière de routes, en matière d'énergie, en matière de télécommunications. Donc, je conseille à tous ceux qui veulent y aller d'y aller déjà et l'opportunité se présente d'y investir.
Merci à vous, Idriss Lindier. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Media Mania, qui édite notamment donc, l'agence panafricaine Ecofin spécialisée dans l'information économique et financière. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.